BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
On va sortir un petit peu de la bourse pour s'intéresser à d'autres types d'investissements aujourd'hui, avec notamment Lita qui nous accompagne et son directeur des investissements, Pierre Schmidgal. Bonjour Pierre Schmidgal, merci de nous accompagner aujourd'hui sur BFM Business. Lita.co, hein, on rappelle, c'est une plateforme de financement participatif.
Hein. Exactement, pour permettre aux citoyens et aux investisseurs d'investir dans l'économie réelle à impact.
Avec donc plusieurs projets qui ont été menés ces dernières années, avec des cas concrets dans l'associatif,
dans des tas de domaines, venture capital, dette privée et financement des infrastructures d'énergie renouvelable.
Et donc ça peut être une bonne alternative pour bien diversifier aujourd'hui ces investissements. Aujourd'hui, on va faire un point sur l'industrie, avec notamment un secteur en France qui souffre en partie. Ça dépend comment on voit les choses, avec notamment Bercy qui a commandé un rapport sur l'avenir de la politique industrielle en France. Il est en cours de finalisation. Si on veut planter le décor, c'est un pays, la France, qui s'est beaucoup désindustrialisé, malheureusement, mais comme d'autres pays européens.
Exactement. Donc, ce que vous disiez est très vrai. La France est le pays qui a connu le plus de désindustrialisation dans les années 70. Et post-Covid, il y a un vrai regain de développer un outil souverain industriel. Et donc, ce rapport s'ancre dans le contexte, pour donner un peu plus un bref rappel, de la loi Industrie verte qui a été promulguée en octobre dernier et qui vise de faire de la France un leader européen de l'économie verte, de l'industrie verte, et de rehausser la part de l'industrie dans le PIB français de 10 à 15%. Donc, ce rapport montre des signaux assez positifs, effectivement, vu que c'est un vrai outil statistique pour l'État pour pouvoir mesurer le rythme d'ouverture d'usines dans le pays, sur le territoire. Et on recense 201 nouvelles usines créées en net en 2023. Donc 354 ouvertures pour 153 fermetures. Donc c'est un signal assez positif, d'autant plus que la France est encore en balance commerciale déficitaire et qu'il y a toujours une concurrence très forte de la Chine sur le domaine de l'économie verte dans des tas de secteurs. Après, le rapporteur précise également que les objectifs du gouvernement étaient assez ambitieux et ils pensent qu'ils sont inatteignables et ils prévoient davantage une hausse de 2 à 3% du PIB maximum sur une décennie.
Alors ça, c'est d'un point de vue global. Après, comme toujours, il y a des grands groupes, il y a des PME, des ETI industriels. Pour vous, c'est plutôt votre cible aujourd'hui chez Lita.co. Comment vous regardez aujourd'hui les besoins et puis aussi les freins des entreprises?
Oui, c'est une très bonne question. Donc nous, on essaye d'être très actifs sur le financement de la réindustrialisation également et de la transition et l'adaptation au changement climatique. Donc un premier frein au développement des industries aujourd'hui et de leur transition reste quand même le coût de l'énergie qui impacte quand même considérablement encore les marges et les résultats, et le besoin d'investir plus massivement dans de l'énergie décarbonée. Le deuxième grand enjeu, c'est l'emploi et la formation. On recense, je crois, cette année 60 000 postes encore ouverts dans les secteurs industriels, et ça pose plus largement la question de comment on repense les parcours de formation, d'employabilité, la question sociale en fait, de revalorisation également des salaires pour les métiers de l'industrie. Le troisième gros point, c'est aussi l'enjeu financier à deux échelles. Le premier, c'est comment on arrive à repenser un modèle d'investissement capitaliste, donc VC industriel, qui a été façonné ces dernières années pour les startups plutôt du numérique et du digital, pour pouvoir répondre à ces enjeux de l'innovation technologique, de nouvelles ruptures. Et sur la partie plutôt PME et ETI, la question, c'est comment on développe des aides d'État et des nouveaux schémas financiers pour les accompagner dans leur transition, notamment décarbonation, en lien avec la stratégie nationale bas carbone, de leur chaîne de valeur.
Et par rapport à cela, on a un contexte qui n'est pas très favorable, avec, on le voit tous les jours, des taux qui sont élevés, avec aussi un ralentissement économique. On n'a pas la croissance des États-Unis. Donc c'est vrai que ça n'aide pas aujourd'hui ce secteur industriel. Comment aujourd'hui ces entreprises peuvent être aidées sous forme d'injection de capital et puis aussi sous forme de recrutement, sous forme de formation?
Oui, c'est une excellente question. Donc effectivement, le secteur industriel est devenu très stratégique en France, parce qu'on pense qu'il peut être clé, notamment dans le cadre de la loi Industrie verte, comme je disais, à la fois de pouvoir créer de la croissance économique et à la fois d'être un vrai levier de lutte contre le changement climatique et de transition écologique. Donc je pense que le premier point, c'est drainer davantage de financement. C'est dans le projet de loi. L'épargne citoyenne est un vrai levier aujourd'hui, avec une volonté via les plans d'épargne durable, de drainer davantage d'investissements climatiques. Le deuxième levier financier, c'est effectivement les plans d'investissement étatiques, donc notamment le plan France 2030 qui a 54 milliards d'euros à investir pour des secteurs clés pour les décarboner via les innovations technologiques et la réindustrialisation. Le deuxième levier, c'est tout le chantier sur faciliter les accès aux fonciers et réhabilitation de friches industrielles. Ça, c'est un élément clé, un volet important de cette loi, avec des sites industriels qui ont été labellisés sites d'avenir pour des nouvelles industries, et également un projet de décarboner les 50 industries les plus émissives en France en gaz à effet de serre, qui représente à peu près à elle toute seule plus de 50% du poids carbone de l'industrie. Enfin, un dernier levier, c'est le verdir la commande publique, parce que la commande publique, c'est un levier hyper important en fait pour pouvoir inciter les gens et les fournisseurs à transiter vers plus de responsabilité carbone. Après, je voudrais juste rajouter, vu que ça c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur chez l'État, qui est hyper important, c'est que plus philosophiquement, se poser la question de la réindustrialisation, pour moi, c'est aussi de se redemander la question comment réussir à soutenir un système productif national dans un monde où en fait 6 des 9 limites planétaires ont déjà été dépassées, et dans un monde plus de rareté, où il faut changer notre rapport extractiviste. Et je pense que c'est très important, parce que comme je le disais, les PME peuvent être un vrai levier, et la technologie plus verte, l'économie verte, un vrai levier de transition. Mais il faut aussi se poser deux questions, je pense, qui sont cruciales. C'est un, faire face à notre responsabilité face à l'épuisement des ressources naturelles, et arrêter de vouloir sans arrêt externaliser les impacts négatifs dans des pays étrangers. C'est une des vertus aussi de la relocalisation de l'industrie. Et la deuxième question forte, je pense, sinon c'est une fuite en avant permanente, c'est de se dire comment on repense le rôle des actionnaires et des capitaux pour financer cette transition, parce qu'il va falloir absorber un coût de la transition. Et c'est l'occasion de créer une troisième voie économique, une alternative, pour repenser le rôle des actionnaires et des dividendes plus classiques en fait.
Et ça passerait comment? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'investisseur, il veut du rendement. Donc, si demain, vous lui dites qu'il y aura moins de rendement, il faut réussir à faire avaler la pilule.
Il y a toujours cette question du rendement. Donc, c'est toujours l'opposition entre ce qu'on attend d'un point de vue très court-termiste sur des habitudes de marché financier où on a de la rentabilité journalière pour les marchés cotés et plutôt à l'année sur les marchés non cotés. Je pense qu'il faut faire un mix assez intelligent entre subventions, aides d'État, prêts. Mais il y a effectivement une partie de cette transition qui doit être absorbée aujourd'hui par les détenteurs de capitaux, pour pouvoir être sur des... On parle souvent de cycles de capital patient. Je pense qu'effectivement, il faut pouvoir rechallenger nos attentes d'un TRI habituel pour des fonds d'investissement à 5-7 ans, repousser des modèles plutôt sur 7-10 ans et avoir des vraies ambitions d'accompagnement de cette transition à l'adaptation climatique.
Et comment aujourd'hui, chez Lita, vous arrivez à prendre ce sujet en main?
Alors, chez Lita, on propose différents types d'investissements, comme je le disais, plutôt start-up, venture capital, investissement en action, mais également du financement en dette privée pour des PME et également pour des grandes ETI qui souhaitent aligner leur chaîne de valeur aux accords de Paris. Donc on essaie d'avoir une stratégie multi-actif de l'investissement non coté pour aider cette transition sociale et écologique.
Et en termes de primes de risque, comment ça s'arbitre aujourd'hui avec, c'est sûr, des taux notamment de la BCE qui sont au-delà de 4, donc forcément c'est compliqué peut-être pour certaines entreprises aujourd'hui de se financer à 10-15%, non?
Effectivement, il y a un enjeu de contrôle des taux, donc les marchés sont légèrement haussiers depuis la crise et les enjeux de hausse des taux. Donc tout dépend du levier et de l'instrument qu'on utilise, notamment obligataire. Après, nous, on essaie de promouvoir des produits assez vertueux où on met dans une prime d'impact un différentiel de taux d'intérêt qui est dû uniquement si l'entreprise ne réalise pas ou ne réussit pas sa transition. Donc c'est indexé à des indicateurs de mesures biodiversité, sociale ou carbone. Et ça permet aussi de faire effet de levier et de baisser un petit peu les taux tout en proposant un rendement risque intéressant pour les investisseurs.
Et comment aujourd'hui les PME, les ETI font pour répondre à ces critères environnementaux de ESG, parce qu'on voit déjà que dans les grandes entreprises ce n'est pas évident. Alors dans une PME ou une ETI d'une dizaine de personnes, c'est un travail colossal quand même aujourd'hui de faire des rapports, de publier des tableaux en calculant point par point ces émissions carbone.
C'est aussi une bonne question. Effectivement, il y a un poids assez lourd de la réglementation. Alors après, c'est relatif. Moi, je pense que c'est important d'être dans un état aujourd'hui, et notamment l'Union européenne qui essaie de réguler les marchés, parce que c'est forcément favorable, et effectivement il y a un enjeu d'adaptation globale globale des chaînes de valeur face à l'enjeu climatique et social qui nous attend. On voit pas mal d'innovations, donc il y a de plus en plus de services, de mesures, de biodiv, carbone, RSE, d'accessibles en solution SaaS par exemple aux PME. Il y a des nouveaux pôles d'innovation qui se créent sur des équipes internes de R&D, de mesures carbone. Il y a quand même pas mal d'innovations, il y a une très bonne résilience aujourd'hui je pense. Je suis pas persuadé qu'il faille voir les contraintes réglementaires comme quelque chose de négatif en fait.
Et aujourd'hui les entreprises arrivent à prendre ce virage, ça va ça...
Il y a encore une différence entre entreprises cotées, ETI et PME qui constituent plus de 90% du terreau français. Mais nous, enfin, je trouve que c'est assez positif. On est au contact au quotidien de chefs d'entreprise très engagés qui veulent justement repenser les modèles d'avenir. Donc c'est plutôt favorable. Oui.
Dernière question pratico-pratique, puisque oui. Vous êtes directeur des investissements chez Lita. Quelles sont aujourd'hui les opportunités offertes aux épargnants en termes de projets ?
De projets. Donc on a deux projets, notamment sur la plateforme en ce moment. Donc nous, Anti-Gaspi, qui résout un problème du gaspillage alimentaire. Donc c'est plus de 10 millions de tonnes d'aliments qui sont gaspillés chaque année selon l'ADEME. Et donc eux, ils ont développé un service, donc des réseaux de magasins, 26 magasins à date, avec une marque en propre et de la distribution de marques de grande consommation, en revalorisant des invendus. Parce que l'enjeu important d'impact sur cette thématique, c'est que 56% du gaspillage intervient avant la phase de distribution. Donc ils innovent dans des nouveaux circuits de distribution de produits non consommés à des tarifs plus abordables. Et donc là, on est sur du financement obligataire de cette société.
Donc là, c'est bloqué. Hein. Une fois que vous mettez votre argent dans ce projet, c'est pas liquide.
Il y a des taux d'intérêt. Alors, c'est bloqué 4 ans, en l'occurrence. Et on a un schéma de remboursement semestriel jusqu'à 4 ans.
Deuxième projet
plutôt en venture capital, l'investissement en action, donc Metamo, qui permet de réemployer du métal, un service complet en fait pour les gros constructeurs et pour les collectivités territoriales de récupération et revalorisation du métal, notamment sur des charpentes métalliques, et donc un vrai axe très important d'impact sur la décarbonation du bâtiment, parce qu'à date il n'y a que 1% des déchets de chantier et de bâtiments qui sont revalorisés en France.
Et en termes de rendement, aujourd'hui, c'est quel type de rendement qui est offert sur ces...
Alors là, on est sur une stratégie d'investissement en actions. Donc, il y a une défiscalisation d'investissement avec l'IR PME. Et après, ça dépend des perspectives de croissance de l'entreprise et de ses schémas de développement futur.
Ok, très bien. Donc, deux projets que l'on peut retrouver sur lita.co. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre Schmidgall, de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes directeur des investissements de lita.co, oui. Et donc focus sur... bien ces projets et puis aussi les mesures qui sont mises en place pour essayer de réindustrialiser la France. Quasiment